20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On connaissait l'année des Méduses, Méduses filles de Gaïa et de Pontos, la Terre et l'Océan, unique gorgone fatale, contrairement à ses sœurs, Euryale et Steno. Pompéi, Tarragone, Sousse, Cordoue en figure sur d'exceptionnelles mosaïques que l'on peut désormais admirer grâce à Persée. Encore grimaçante, j'ai souvenir de l'avoir vue fixée sur quelques boucliers exhumée sous un lycée de Besançon et désormais exhibée dans un musée. Comme on le sait en Méditerranée, il y a des années avec ou sans. Toutefois, 2017 n'est pas l'année des méduses, mais bien celle des mosaïques, puisque le Midi en a révélé d'exceptionnelles. Tout d'abord, de très vieilles à Uzès, d'autres tout en couleur à Auch, enfin de sublimes à Sainte-Colombe. Tout cela ne serait rien si une vaste synthèse sur les mosaïques n'était parue. Pour en parler, Jean-Pierre Darmon, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, vous venez de publier avec Catherine Balmel La mosaïque dans les Gaules romaines aux éditions Picard. Jean-Pierre Darmon, curieusement, si la presse en parle parfois lors de découvertes, la mosaïque antique reste encore totalement méconnue de nos concitoyens ?
Certainement méconnue en Gaule. Les voyageurs français ont visité l'Afrique du Nord, les magnifiques mosaïques de Tunisie, du musée du Bardo par exemple, les mosaïques de Grèce, les mosaïques d'Italie sont connues du public. Mais très bizarrement, je crois que le public français ne se rend pas compte de la qualité de ses trésors en matière de mosaïques antiques. Et bizarrement, et alors qu'il y a des musées magnifiques qui en présentent de très beaux à Saint-Romain-en-Galles, à Arles, à Lyon, magnifiques musées. Malheureusement, le public n'y va pas peut-être suffisamment. En tout cas, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a jusqu'à présent, qui essaye de présenter l'ensemble des trésors en mosaïque conservés dans l'espace des Gaules.
En tout cas, c'est ce que vous venez de faire. Le drame des mosaïques n'est-il pas d'être systématiquement arraché à leur contexte d'origine, les sols antiques ?
Pas toujours. Il arrive qu'on puisse conserver sur place, in situ, les mosaïques. Il y a un bel exemple d'ailleurs de muséographie à ce sujet. C'est à Saint-Romain-en-Galles, au musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles. À la belle saison, on replace in situ les mosaïques qui ont été déposées pour être protégées en hiver à cause des dangers du gel. Mais en été, on peut les voir à leur situation d'origine.
Et pourtant, ça passionne nos concitoyens. Regardez les mosaïques très belles, d'ailleurs, qui viennent d'être exhumées à Uzès. La population voulait à tout prix que les mosaïques restent telles quelles.
Je pense qu'on a très bien fait la médiatisation de cette découverte, qui est en effet extrêmement intéressante, parce qu'il s'agit d'une mosaïque très ancienne. La datation exacte n'est pas encore rendue, mais... Et en tout cas, on se situe autour de l'époque d'Auguste, probablement. Ce sont les débuts marqués, disons, de la production en mosaïque en Gaule du Sud. Et le site d'Uzès était un site dont on ne connaissait pas ce genre de trésor. C'était particulièrement intéressant de l'apprendre. Personnellement, je n'ai pas pu voir le document lui-même. J'en ai vu des photographies qui... On ne sait pas si c'est un pavement d'espace domestique ou d'espace religieux, peut-être de temple. Pour l'instant, il n'y a pas eu de publication encore scientifique. Et donc, nous attendons avec impatience que les chercheurs, dont en particulier M. Quin, qui a fait cette fouille, nous en donnent les éléments cognitifs, si vous voulez.
En tout cas, moi, j'ai eu la chance de la voir, puisque je me suis rendu sur le terrain pour faire une émission. Et autour d'un médaillon, il y avait quatre animaux tout à fait étonnants, dont un canard, un hibou, pas très réaliste.
Oui, c'est curieux. D'ailleurs, par rapport au type de mosaïque de l'époque, on peut être surpris d'avoir ces figures en écoinçon autour du disque central. Alors peut-être s'agit-il d'évocations de divinités, l'aigle étant du côté de Zeus, etc. Enfin bon, on en discute.
Plongeons, Jean-Pierre Darmont, dans les origines. À qui doit-on l'invention de ces beaux pavements ?
La mosaïque est une très vieille innovation qui apparaît, semble-t-il, en Asie mineure autour du 8e siècle, avant Jésus-Christ. C'est la fameuse mosaïque de Gordione qui présentait des motifs épars, et pas du tout de composition d'ensemble, mais une technique qui était déjà la technique des mosaïques de galets à l'époque, c'est-à-dire faite avec des éléments naturels recueillis dans les lits de rivière. Et par la suite, cette technique s'est énormément développée dans la Grèce de l'époque classique déjà, puisqu'il y a pas mal de belles mosaïques au 4e et même au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui viennent du continent grec, enfin de la presqu'île grecque. Et on a beaucoup de très beaux tableaux figurés à l'époque hellénistique, à l'époque de Philippe d'Alexandre. Les mosaïques de Pella, en particulier, en Macédoine, du sud, au bord de la mer, et ont été quelque chose de magnifique, et très bien conservé, très bien documenté.
Dans les Gaules, la mosaïque est essentiellement présente dans le sud et semble intimement liée, bien sûr, à la romanité. Comment s'opère la diffusion de ce procédé ?
Alors, la diffusion s'est opérée à partir de la fin de l'époque classique grecque par la diffusion, l'expansion des grands royaumes hellénistiques qui ont suivi la mort d'Alexandre. Et il y a tout un art hellénistique de la mosaïque qui s'est développé sous diverses formes dans tous ces royaumes, c'est-à-dire aussi bien en Égypte, par exemple, que du côté de la Syrie, etc. Enfin, dans les îles de la mer Égée, beaucoup. On a donc tout un trésor comme ça qui montre qu'il y a eu une grande diffusion de cet art dans le monde hellénistique oriental. Et puis, évidemment, la Méditerranée centrale a très vite été gagnée par ça. C'est-à-dire, d'un côté, les Carthaginois qui se sont mis à faire des choses aussi plutôt géométriques et abstraites avec cette technique de l'usage de tesselles. Alors, cette fois, ce ne sont plus des galets à partir de ce moment-là, vers la fin de l'époque hellénistique. Ce sont des tesselles, c'est-à-dire des morceaux qui sont taillés exprès pour entrer dans la composition d'une mosaïque. On a, par exemple, un très bel exemple en Sicile, la Morgantina, vers la fin du 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, avec même des représentations figurées à ce moment-là. Et puis, par l'Italie du Sud, par la Sicile, tout ça gagne l'Italie en général. Et le développement de certaines techniques, en particulier des techniques des emblémata, c'est-à-dire des petits tableaux sur support mobile faits avec des toutes petites tesselles, se développe beaucoup, probablement sous l'influence alexandrine d'ailleurs, comme le montre Anne-Marie Guimier. Sorbet. Et puis, tout naturellement, au moment de la colonisation des Gaules du Sud, la Gaule narbonnaise, qui va donc de Narbonne d'un côté jusqu'à Vienne de l'autre.
Dans le deuxième siècle avant notre ère.
Dès le deuxième siècle avant notre ère, voit la transmission de ces ornements, de ce mode de vie qui s'accompagne d'images figurées soit par la peinture murale, soit par la mosaïque, très vite. Et on a certainement on peut être absolument sûr que ce sont des mosaïques italiens qui viennent poser les plus anciennes de ces mosaïques, qui gardent un caractère hellénistique très marqué dans leur composition, dans leur conception. On peut les comparer avec les mosaïques de Délos, par exemple, parfois. Enfin bon. Et ce qui est intéressant, c'est que probablement, dès le début, dès cette époque-là, ces mosaïques italiens ont dû former des gens sur place pour servir de petites mains, etc. Et donc, il y a très vite, probablement, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, un début de formation de gens de là, d'originaires des Gaules, qui se mettent à cette pratique. C'est ce qui explique qu'on ait assez rapidement, finalement, des preuves de l'existence d'artisans mosaïstes d'origine sans doute gauloise, mais pratiquant cet art qui est un art venu venues d'Italie essentiellement pour la Gaule.
Les plus anciennes proviendraient donc du Midi. Parmi elles, le site de Glanum, Saint-Rémy de Provence par exemple.
Oui, Glanum est connu depuis très longtemps. En effet, il y a des pavements anciens. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a élargi nos connaissances et que les découvertes récentes montrent que on avait des grands domaines, des maisons assez luxueuses, semble-t-il, qui appartenaient sans doute, parce qu'elles se trouvent sur des oppidas d'origine gauloise en réalité, qui appartenaient probablement à des gens de l'aristocratie d'origine gauloise mais romanisée, qui faisaient pratiquer ce type de décoration dans leur demeure. Véronique Blanc-Bigeon en a trouvé en particulier au nord de la Narbonnaise, au contact avec le Massif central, qui sont vraiment très, très intéressantes.
On imagine que ces mosaïques sont des revêtements de prestige destinés aux élites. Toutefois, il semblerait que les archéologues en découvrent plus dans l'architecture domestique que dans celle monumentale et publique.
Oui, c'est un caractère général, parce que probablement, on cherche pour les édifices publics ou les édifices religieux des pavements plus riches sur le plan matériel, sur le plan du prestige. On utilise volontiers des pavements marbre. Et quand on a affaire à des dalles de marbre, on ne peut plus, évidemment, avoir de figuration. On perd au niveau documentaire ce qui était gagné en prestige et en richesse dans les pavements et dallages et les opus sectilés de marbre qui étaient volontiers le pavement des édifices publics et religieux.
Jean-Pierre Darmon, les mosaïques peuvent-elles être porteuses d'enseignements sur la société qui l'utilise?
Oui, évidemment.
Forcément.
Évidemment, c'est extrêmement riche à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de ce que l'art véhicule comme élément signifiant de l'histoire de l'art elle-même, c'est-à-dire qu'on apprend quelles étaient les œuvres qu'on se plaisait à citer en les représentant. Vous savez, les gens faisaient représenter des schémas iconographiques qui remontaient à des grands peintres de l'Antiquité grecque. Et ils se plaisaient donc à avoir chez eux, en somme, comme on dirait aujourd'hui, j'ai chez moi la Joconde. En fait, c'est évidemment pas la Joconde, c'est une copie, mais une interprétation de. Et c'était la même chose à l'époque. On avait une peinture de telle, de Polygnote, on avait des choses comme ça qui se référaient à l'histoire de l'art. Mais il n'y a pas que ça, parce que la nature même de ces images est à interroger. Il s'agit de savoir ce qu'elles véhiculent comme signification, à quoi elles se réfèrent, pourquoi on a pu vouloir les choisir. En particulier, par exemple, on voit très bien la popularité d'un thème comme le thème d'Achille. Il y a quelques exemples en Gaule, mais il y en a beaucoup dans tout l'Empire. Achille étant le modèle même du héros, celui qui a reçu une éducation parfaite et qui a été un héros parfait, etc. On le retrouve. Donc il y a toute une série de choses qui laissent à penser que le décor est en même temps un instrument d'éducation pour les membres de la famille. D'une certaine manière, la paideia, c'est-à-dire l'éducation, la transmission d'éducation, joue au sein de l'espace familial par l'intermédiaire de ces images.
Parmi les œuvres célèbres, bien sûr, l'Eda et le Cygne.
Oui, par exemple, il y a l'Eda et le Cygne, mais il y en a beaucoup. Il y a Achille Ascyros qui se libère de sa condition féminine entravée pour devenir un héros exemplaire. Mais vous en avez de toutes sortes, et en particulier, parfois, en Gaule, il y a des thèmes spécifiquement gaulois. Enfin, un thème héroïque, sans doute, qui est inspiré par des passages de Virgile, donc qui est quand même classique, et qui représente le combat d'Arès et Entelle, est un motif, est un thème qui n'existe que dans la région d'Aix-en-Provence avec une extension vers Arles. Alors on ne sait pas pourquoi.
On n'en aurait pas trouvé une à Nîmes, par exemple ?
Oui, il y a une découverte à Nîmes il n'y a pas très longtemps. En faisant des travaux d'un immeuble pour une banque, on a trouvé un pavement avec différents sujets, dont ce sujet du combat de Darès et Entelle, qui est un combat moral, si vous voulez, dans la mesure où Entelle, un vieux combattant, est défié par un jeune orgueilleux et que le jeune orgueilleux se fait casser la figure et renvoyer sur les roses. Et c'est le triomphe du vieil Entelle qui est magnifié par ces traditions-là.
France Culture,
Carbone 14,
Vincent Charpentier.
Chaque mosaïque a-t-elle sa propre signification ? Le médaillon, par exemple, représentant parfois Méduse, serait l'évocation de l'égide, l'arme de Zeus ?
Oui, l'égide est portée par sa fille, par la fille de Zeus, mais enfin c'est vrai qu'elle appartient à la mouvance de Zeus. Et Athéna a placé sur l'égide la tête de la gorgone, de la Méduse, dans la mesure où le regard de la Méduse transforme en pierre ceux qui la regardent, par conséquent c'est une sorte d'arme absolue. Et Giovanni Beccazzi a montré en particulier, mais j'ai repris un peu la chose dans un de mes derniers articles, que cette représentation, quand on la trouve en mosaïque, même très géométrisée, est une évocation en effet de l'égide, et que par conséquent on peut supposer que la présence de ce motif géométrique avec la tête de la Méduse au milieu, ou pas, d'ailleurs, parfois il y a autre chose, eh bien, a un pouvoir prophylactique, un pouvoir de défense contre un ennemi potentiel extérieur, comme l'égide réelle dans la mythologie grecque.
D'ailleurs, justement, pour les mosaïques au décor géométrique ou abstrait, y a-t-il là aussi quelques connotations sémantiques ?
On peut le penser. Je me suis risqué, justement, à écrire un article auquel je pensais depuis très longtemps et que j'ai osé écrire, parce que maintenant, j'ai suffisamment de bouteilles pour me dire je ne risque plus rien. Je pense qu'en effet, il y a des motifs qu'on peut considérer comme porteurs d'une signification implicite. Ça ne veut pas dire que les gens leur donnaient automatiquement, connaissaient cette signification. Ça veut dire que ces motifs géométriques pouvaient être commentés et qu'il y avait des commentaires qui permettaient de dégager éventuellement leur signification. Par exemple, le méandre de Vasica. Le svastika, vous savez, c'est ce qu'on appelle la croix gammée.
Très bien.
Le svastika existait dans d'autres civilisations, c'est pas mon problème. Mais à partir du moment où il est intégré à la culture classique, c'est-à-dire gréco-romaine, on peut dire en gros, et déjà à l'époque grecque, classique, le svastika, en réalité, sert à symboliser le labyrinthe. Et on le voit sur de nombreuses monnaies grecques du 4e, du 5e siècle, même avant Jésus-Christ. On voit d'un côté le svastika et de l'autre côté, par exemple, le Minotaure en train de courir. Ou bien, de l'autre côté, la tête d'Ariane. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une référence au labyrinthe. On peut être sûr que cette référence n'a pas été perdue, qu'elle a été conservée. Et il y a des exemples qu'on peut citer, dont une mosaïque d'Aix-en-Provence, où on voit Thésée et le Minotaure qui se battent au centre de quelque chose qui est un méandre de svastika, simplement. Ce n'est pas ce qu'on appelle un labyrinthe. Il y a aussi des représentations de labyrinthe. Mais un simple méandre de svastika, je pense, suffisait à évoquer cela. Alors, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je suis prêt à en discuter.
Justement, Jean-Pierre Darmon, toutes ces œuvres renvoient systématiquement à un imaginaire classique gréco-romain. La Gaule indépendante est vraiment morte dans la mosaïque ?
Les Gaules, hein, les Gaules, parce que la Gaule, ça n'existe pas en réalité.
D'accord, les Gaules.
Les Gaules ont des spécificités, en particulier religieuses, qui restent, qu'on retrouve dans des statuettes avec des représentations de divinités d'origine gauloise. Mais alors, en mosaïque, on est dans un domaine dominé par l'imaginaire classique. Il y a très peu d'attestations non classiques. Mais il y en a quand même. Et il y a en particulier, par exemple, dans la région de Trèves, une très belle salle à abside. Dans l'abside, on voit un très beau masque d'océan. Mais cet océan, au lieu d'avoir des cornes de crabe, des pinces de crabe sur la tête, a du corail qui a la forme de bois de cerf. Et d'autre part, au lieu d'avoir un dauphin qui lui sort par la bouche, le cou est entouré par un serpent qui a la forme d'un torque. Et du coup, on est en présence non plus de l'océan classique, mais d'une divinité gauloise qui était Cernunnos, qui était caractérisée par ça, par les bois de cerf et les torques.
Donc une tradition celtique.
Donc il y a quelque part là une tradition celtique qui s'est maintenue, même dans la mosaïque, ce qui est extrêmement rare en fait.
Les mosaïques ne sont pas que des simples images, et certaines sont d'exception. Il faut bien sûr parler peut-être des plus belles. Le calendrier rustique de Saint-Romain-en-Galles est peut-être un bon exemple aussi. La chasse aux cerfs de Lillebonne en Seine-Maritime.
Oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas seulement des références mythologiques et autres. On a aussi des reflets, un reflet de choses tout à fait quotidiennes. Et vous faites allusion à cette magnifique mosaïque de Saint-Romain-en-Galles qui est tout près de Paris, qui est conservée au musée de Saint-Germain, le musée des anciennes antiquités nationales. Musée de l'archéologie nationale. Avec des représentations d'activités liées à certains mois, à certaines fêtes, comme certains jeux de javelot, par exemple, ou des cultes à des statues, ou bien au contraire, des activités tout à fait matérielles, comme la cuisson du pain chez le boulanger, la presse des olives et autres. On voit, par exemple, à un moment donné, un âne qui fait tourner une sorte de meule. On a tout ça qui montre que les mosaïstes étaient quand même aux aguets du réel en même temps, d'une certaine façon. La chasse de Lillebonne, c'est autre chose, c'est plus tard, d'ailleurs c'est une mosaïque plus tardive, un peu plus tardive.
Aussi très belle.
Qui est extrêmement intéressante parce qu'elle représente, et là on voit pointer les Gaulois aussi, c'est l'autre exemple, une représentation d'un type de chasse qui est d'origine gauloise et qui s'appelle la chasse à l'appelant, ou au cerf privé, c'est-à-dire que on utilise un cerf domestique pour attirer des cerfs sauvages. Il y a une représentation de tout le cycle de cette chasse qui est en tableau. Alors, on peut la voir très facilement puisqu'elle est conservée au musée de Rouen, musée des antiquités de Rouen.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Jean-Pierre Darmon, directeur de recherche au CNRS, les mosaïques dans la Gaule romaine. Le propriétaire amateur d'art prouve au travers de la mosaïque son érudition. Il y a même parfois des textes grecs.
Oui, il y en a, et il y en a d'un intérêt puissant, en particulier à Autun. On a trouvé un pavement qui représente plusieurs petits tableaux. Chaque tableau évoque un auteur et est accompagné d'une citation de cet auteur en grec. Ce qui montre un niveau de culture de cette société gallo-romaine d'Autun extrêmement raffiné. Bon, on savait qu'Autun avait été un centre un peu de diffusion de la culture classique, mais là, on en a la preuve, et l'intérêt est d'autant plus grand que parfois, certaines des citations, en particulier celles qui concernent le philosophe Métrodore, qui est l'une des mieux conservées d'ailleurs de ces figures, étaient attribuées autrefois à Épicure, et que grâce à cette mosaïque, on sait maintenant qu'il s'agit d'un texte de Métrodore, comme l'a montré Alain Blanchard.
Jean-Pierre Darmon, la mosaïque est-elle durant l'Antiquité un art mineur ou un art majeur?
Là, vous me provoquez.
Bien
alors.
Sûr.
Écoutez, art mineur, art majeur,
pour
c'est un art décoratif, bien sûr. De même que les peintures sur des vases grecs étaient un art décoratif. Il n'empêche que la peinture murale d'époque romaine est un art décoratif. Il n'empêche que il y a une très grande richesse de contenu dans tout ça. Et par conséquent, la qualité fait que... Vous savez, l'Antiquité ne distinguait pas vraiment entre artisans et artistes. Hein. Il y a une sorte de type d'hommes qui sont des technitai, qui connaissent des techniques spécialisées. Ça peut être...
L'enduit peint.
La sculpture sur marbre, ça peut être le travail du cuivre, de l'argent. On a des plateaux d'argent extrêmement riches d'illustrations.
Trésor de Rethel, par exemple.
Voilà. Alors, tout ça fait que on est en présence d'un art qui n'est pas négligeable, d'abord, et ensuite d'un art qui est une source d'informations extraordinaire. Parce que quand des murs s'effondrent, les peintures se perdent, les mosaïques murales se perdent, mais les mosaïques de sol sont protégées par l'écroulement même des maisons. Et par conséquent, quand on les découvre, elles sont très souvent intactes. Et à chaque fois, on a des révélations. Tous les ans, on a des révélations.
La mosaïque de la Gaule est-elle un art provincial par rapport à Rome?
Écoutez, la question est difficile parce que il y a beaucoup de provinces romaines qui ont toutes développé leur propre style. On peut reconnaître, on peut se dire que probablement telle mosaïque est plutôt une mosaïque africaine, ou qu'elle a été faite par des Africains, ou une autre qu'elle est plutôt gallo-romaine, une autre qu'elle est plutôt orientale, puisqu'il y a un très grand art de la mosaïque en Orient, autour d'Antioche et de toutes ces grandes cités d'Orient, à Pamé. Par conséquent, bien sûr, la mosaïque des Gaules est une mosaïque qui a son caractère un peu particulier, mais ça ne veut pas dire qu'elle est provinciale au sens moderne du mot. Ça ne veut pas dire qu'elle soit un peu une sorte de reflet d'un centre plus brillant, etc. C'était vrai au début. C'était vrai au début. Mais à partir du moment où on est sous le Haut Empire, toutes les provinces concourent à la richesse artistique de l'Empire romain dans son ensemble. Alors évidemment, on n'a pas la qualité extraordinaire de certaines résidences impériales, la région de Rome. Bon, mais parfois, on n'en est pas très loin. Il y a des marbres, il y a un opus sextilé en particulier du côté de Vienne qui est une splendeur. Et la même chose du côté d'Aix-en-Provence.
Pour autant, la mosaïque antique en Gaule évolue-t-elle au cours des siècles ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a tout ce développement de la grande mosaïque du Haut Empire dont j'ai parlé, avec un certain nombre de caractéristiques qu'on essaye de décrire dans le chapitre qui est réservé au Haut Empire. Mais par la suite, à partir du moment où on arrive au IIIe siècle, il y a une période de troubles qui correspondent à la fois à des invasions et en même temps à des impasses politiques, des rivalités de pouvoir qui fait que l'Empire est menacé dans sa structure même. De là ressort une nouvelle organisation qui est celle, à partir de la tétrarchie, du bas-empire romain. Et ce bas-empire romain marque une renaissance et donc, à l'occasion de cette renaissance, il y a également renaissance de tous les arts, mais en particulier de l'art de la mosaïque aussi, qui prend des caractères différents, prend des caractères nouveaux. Et en Gaule, ce qui est intéressant, c'est que le foyer de diffusion des inventions nouvelles en matière de décor, de sol et de mosaïque n'est plus le même qu'avant. À l'époque du Haut Empire, on était dans la vallée du Rhône comme source principale de cet art. Sous le Bas-Empire, on doit aller le chercher dans la vallée de la Garonne. Et c'est le sud-ouest, comme le montrerait très bien Catherine Balmel si elle était parmi nous, mais malheureusement elle n'est pas à Paris, qui prend le relais et qui crée un art de la mosaïque différent dans le choix de ses motifs, etc., sans être complètement en rupture avec le passé, mais quand même, on a affaire à un art complètement nouveau, oui.
Jean-Pierre Darmon, j'ai récemment vu à Uzès un texte blanc dans un cartouche blanc. Êtes-vous au courant et peut-il s'agir d'une sorte de chose exceptionnelle, une sorte de message caché ?
Écoutez, bon, cette inscription n'a pas été encore publiée de toute façon, donc on ne peut pas dire en ce moment ce qu'elle nous dit. D'autre part, la technique de réaliser des motifs décoratifs blancs sur fond blanc existe, elle est attestée. J'en ai moi-même découvert un exemple en fouillant la maison des nymphes de Nabeul autrefois. J'avais autour d'un bassin un motif géométrique qui était traité comme ça. Et donc il fallait être très attentif pour le voir, sinon on ne le voyait pas. Et là c'est la même chose. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de volonté de mystérique, comme vous dites ? Mais ça, je me méfie toujours un petit peu de ces interprétations, parce qu'il y a peut-être des choses plus simples à dire. Par exemple, que ce serait un nom de propriétaire, mais que le propriétaire n'a pas voulu la ramener, et qu'il a mis son nom, mais de façon extrêmement discrète. Ça peut être ça. Je ne connais pas le texte, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est.
Jean-Pierre Darmon, merci beaucoup. Je rappelle le titre donc de votre livre, La mosaïque dans les Gaules romaines, que vous avez publié aux éditions Picard avec Catherine Balmel.
Merci.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Desmonts et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous descendrons dans un mikvé, un bain rituel juif et médiéval qui vient d'être découvert dans une cave de Saint-Paul-Trois-Châteaux.